Bonjour, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver, je suis Marion. Aujourd'hui, on va discuter de l'actualité tech. Nous sommes le mardi 23 avril, je regarde ma petite horloge, et tout de suite, c'est le mug. Bonjour, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ce matin. J'espère que vous avez la forme, que vous êtes levé du bon pied, que vous avez votre café, votre thé, votre jus d'orange à portée de main pour commencer doucement la journée en bonne compagnie et très bonne compagnie puisqu'on va voir un petit peu qui nous a rejoint dans la chatroom que je vous salue quand même à ceux qui se lèvent de bonne heure. Salut Samuel, salut Charlène, salut bonjour Coincoin, salut Yves Castel, salut Cyberpierre, salut Jean-Fifi, enfin Jean-Fi pardon, Jean-Fi, salut Mathieu BM, salut David le Pandafou. Salut Olivier SG, salut Andy76, salut Alan Poisson, salut Dora Larré, beaucoup de poissons ce matin. Salut Olex, salut MMG7F, salut Willro, salut Mécano, salut Rassalgul666, salut à vous, salut Filerin510, salut Poppy, salut The Gabby King, salut The Renardo Glacial, salut Matt Eleven, salut Vida Aldehyde, Elgil71, salut à toi, salut Kevinox, salut à Deuz, Nounix59, Power Loutre, si je ne t'ai pas dit bonjour, salut Briffon, et un grand, grand merci à ceux qui ouvrent le bal des soutiens ce matin, un grand, grand merci à JBV75, Yves Castel et Fouc06 de nous soutenir, alors qu'on n'a même pas commencé l'émission, mais ça fait plaisir et ça donne de l'énergie, un grand, grand merci à vous de soutenir Naotech, de soutenir l'émission Le Mug et de permettre de rémunérer les personnes qui travaillent au quotidien pour vous produire ce type de contenu de qualité. Un grand merci également à Alan Poisson pour ton soutien ce matin. Et salut Dr Rictus, salut Doc Lapinou, salut Sfatoux, salut Tech On Me, salut Hellboy6903. Voilà, que du beau monde ce matin dans la chatroom, ça fait trop plaisir. Powerloot, tu nous dis vraiment mon émission Twitch préférée. Ah ça va droit au cœur. Merci beaucoup. Ça fait trop, trop plaisir d'avoir ce genre de phrases et de témoignages. Franchement, ouais, quand je dis ça va droit au cœur, c'est vraiment vrai. Donc, un grand, grand merci à vous. Et salut Nico Dindon. J'aime beaucoup ton pseudo aussi, Nico Dindon, c'est pas mal. On a beaucoup d'animaux ce matin dans la chatroom. Merci à vous. Et donc, du coup, sans plus tarder, de quoi va-t-on parler quand même ce matin? Parce qu'on est ici, pas pour être ému des gentils messages dans la chatroom, même si ça fait toujours plaisir évidemment, mais c'est également pour vous parler d'actualité tech et pas que, de séries aussi et de jeux vidéo. On a des choses pas mal variées ce matin, comme je les aime, vous le savez, j'aime bien vous faire un petit sommaire à ma sauce, un peu qui varie les sujets. Et là, c'est vraiment l'idéal ce matin. Donc, on va commencer avec une petite news d'Apple qui concerne leur coque Fine Woven. Vous savez, pas celles qui sont en silicone, comme je viens de me taper avec l'iPhone. Pas comme celles qui sont en silicone comme celles que j'ai ici, mais celles qui sont qui avaient pour but de remplacer les coques en cuir de la précédente gamme d'Apple. Et ben voilà, on va parler un petit peu de celle-ci. Leur avenir semble un petit peu dans la balance, donc on reviendra sur ce sujet. Et puis après avoir parlé d'Apple, on fera une brève aussi sur Google. Google qui a annoncé se séparer de 28 employés à la suite d'une protestation à deux de leurs bureaux la semaine dernière. Et ça, c'est suite, il y a eu un mémo interne qui a été communiqué justement pour parler de la situation. En rapport, la protestation était en rapport notamment avec un projet qui était en lien avec Israël et notamment un contrat de cloud. Voilà, donc on reviendra là-dessus sur la protestation. Et surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la décision de Google et la communication de Google à l'intention de ses employés. Ça marque un certain tournant aussi dans l'ère de la tech et peut-être du recrutement des ingénieurs qui étaient un peu rois il y a quelques années, et ça marque un sacré tournant. On continuera avec Samsung, que des grosses boîtes tech ce matin, et on parlera aussi de politique de société, puisque Samsung a annoncé qu'ils allaient imposer à ses cadres dirigeants de travailler pas 4 jours par semaine, pas 5 jours par semaine, mais 6 jours par semaine. Et il y a certaines boîtes qui font un changement de 5 à 4 jours, il y en a d'autres qui font un changement de 5 à 6 jours. Voilà, pour tout ça, pour surmonter la crise. On reviendra un petit peu sur qu'est-ce qui touche Samsung à l'heure actuelle et où va s'appliquer cette nouvelle règle des semaines à 6 jours. Je vous rassure, pas en France. On continuera en vous partageant des rapports de données assez intéressants. Et c'est pour ça que je trouvais que ça valait la peine de vous le partager, notamment un rapport qui a été émis par l'Ofcom. L'Ofcom, c'est quoi? C'est l'Office de communication et c'est l'autorité en fait régulatrice des télécommunications au Royaume-Uni. Et donc, du coup, ils sont quand même bien placés pour avoir des données. Et il nous informe notamment qu'il y a eu une grosse augmentation du nombre d'enfants âgés de 5 à 7 ans qui possèdent un smartphone. Je répète, 5 à 7 ans, les enfants. Voilà. Et donc, une augmentation. Aujourd'hui, 24% des enfants auraient un smartphone à l'âge de 5 à 7 ans. Voilà, et du coup, d'autres données, et je trouvais ça intéressant de vous le partager. Vous pouvez retrouver évidemment tous les articles dans le Flipboard de Naotech. Comme ça, vous pourrez retrouver ça et puis ils seront partagés au moment où on parlera des articles dans la chatroom. Et puis, un autre rapport qui a été communiqué également, qui est assez intéressant, qui a été fait et proposé par Spartic et qui nous montre un petit peu la consommation moyenne des écrans à travers le monde. Donc pas forcément tous les pays, mais qui quand même donne un peu une visibilité dans pas mal, ou en tout cas de nombreux pays, notamment en France, en Europe, enfin voilà, en Russie, en Chine, en Inde, en Australie, aux États-Unis, au Canada, etc., etc., en Amérique du Sud également. Voilà. Donc on reviendra un peu là-dessus et pour voir combien de temps on passe finalement devant les écrans et où est-ce qu'on se situe par rapport aux autres pays ou continents, parce que des fois ça dépend, dans le monde. Ça peut être quand même assez intéressant. Ça s'étend à peu près environ entre un peu moins de 4 heures à plus de 9 heures. Donc la variation est quand même assez importante. Et puis ensuite, on enchaînera pour parler également d'un point sur la table que l'Europe, ou en tout cas l'Union européenne, a fait à l'encontre de Biden cette semaine, puisqu'ils se sont exprimés, je crois, hier. Il y a eu voilà, c'est ça, un communiqué qui a été publié le lundi 22 avril, qui vise tout simplement TikTok Lite. TikTok Lite, c'est quoi? Eh bien, en fait, c'est une application qui rémunère les utilisateurs en échange du temps qu'ils passent dans l'application. Et tout simplement, elle pourrait être bloquée dès ce jeudi suite à une décision de l'Union européenne. Alors, ce n'est pas encore acté. TikTok a encore un peu de temps pour répondre aux critiques de l'Union européenne et on verra lesquelles exactement tout à l'heure. Et puis on continuera, on ira tout doucement vers le gaming et cette fois-ci on parlera du jeu The Crew. Alors The Crew, c'est quoi? C'est un jeu de Ubisoft qui était sorti en 2014 et qui permettait tout simplement à 12 millions de joueurs de prendre part à des courses automobiles en ligne. Mais pourquoi on en parle aujourd'hui? Ben, tout simplement parce que depuis le 1er avril, eh ben, Ubisoft a décidé tout simplement d'éteindre les serveurs qui permettaient d'accéder au jeu, suscitant un peu l'indignation sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle que les utilisateurs ont acheté une licence d'utilisation du jeu vidéo et que malheureusement, 10 ans après la sortie du jeu, celui-ci est inaccessible. Ça soulève un peu une question sur la propriété, sur le fait de pouvoir acheter un jeu mais qu'il n'est jamais vraiment à nous lorsque tout ça est mis à disposition des joueurs via les serveurs payés par une société. Voilà. Donc on reviendra un petit peu là-dessus, notamment avec un point de vue d'un avocat. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis on continuera avec les jeux vidéo, et le jeu vidéo dont on ne fait que parler en ce moment, c'est bien évidemment Fallout, le jeu voilà, qui fait beaucoup parler de lui suite à la sortie de la série adaptée, la série Prime Video, hein, Amazon Prime Video, qui est sortie la semaine dernière, que vous pouvez tout de suite accéder hein, sur la plateforme, et qui a évidemment relancé et redonné un gain d'intérêt finalement à toute l'univers Fallout, parce qu'il n'y a pas qu'un jeu, il y a plusieurs jeux. Je vous dis ça parce qu'en fait, moi, j'y connaissais rien. Je connaissais Fallout de nom, mais je ne savais même pas qu'il y avait plusieurs types de jeux Fallout. Et donc, du coup, j'ai appris ça un petit peu grâce à la sortie de la série et aux articles qui sont parus, notamment de Gameblog, qui nous montrent un petit peu que la franchise Fallout est donc en pleine effervescence et que Amazon Prime carrément en profite pour donner accès gratuitement à certains des jeux Fallout. Et puis, on verra aussi que la série a permis de redorer le blason ou de faire remonter à la surface finalement l'opus de Fallout qui avait eu le moins de succès de par succès grand public et également succès de critique parce qu'ils avaient, il avait été pas mal pointé du doigt à sa sortie et c'est Fallout 76 qui avait été un peu un bide à l'époque et qui finalement a vraiment un regain d'intérêt avec la sortie du jeu de la série pardon. Et puis on terminera avec une toute petite brève, cette fois-ci d'une autre série, une série qu'on connaît bien parce qu'on en a parlé plusieurs fois dans le mug, et c'est For All Mankind. For All Mankind, c'est la série Apple TV, qui est une série de science-fiction assez particulière, puisqu'elle se base sur une uchronie de la conquête, ou en tout cas de l'atterrissage sur la Lune, qui ne se déroule pas comme cela a pu se dérouler dans l'histoire actuelle, et du coup qui va créer une variation, une uchronie, c'est pour ça qu'on appelle ça une uchronie, une variation dans l'histoire et qui va faire diverger notre histoire alors qu'on est sur deux mondes très très, très, très similaires. Et donc qu'est-ce qui se passe ? Bah, annonce, voilà, je vous le dis, hein, annonce d'une saison 5 et annonce d'un spin-off de la série. On en parlera un peu plus en détail en fin d'émission. Voilà pour le sommaire, vous voyez un sommaire assez dodu ce matin. Et donc du coup, ben, sans plus tarder, je vous propose de commencer avec le premier article. Juste avant de commencer, j'en profite quand même pour remercier ceux qui nous soutiennent ce matin, et notamment Nounik59. Un grand, grand merci à toi pour ton soutien. Voilà. Voilà, donc on commence avec l'article d'Apple qui concerne Apple et ses fameuses coques qu'on appelle Fine Woven. Alors c'est quoi ces coques ? Eh bien tout simplement, c'était des coques qui ont été lancées à l'automne 2023, donc tout récemment, hein, en compagnie des iPhone 15, afin tout simplement de remplacer les accessoires en cuir et de pouvoir du coup être plus durable, plus respectueux aussi de l'environnement et des animaux. Et en fait, elle proposait donc une nouvelle protection pour l'iPhone avec ce qu'on appelle un tressage fin. C'est pour ça que ça s'appelle Fine Woven. Et qui sont plus naturels et censés apporter le même rendu que le cuir d'origine animale. Seulement voilà, ces coques qu'on appelle Fine Woven sont vendues, elles, à prix plein. Sauf que la qualité n'est pas forcément au même rendez-vous ici que les précédentes coques en cuir. Depuis plusieurs mois, en fait, on voit pas mal de critiques assez négatives concernant ces coques qui pullulent notamment sur les réseaux sociaux. Elles sont, il paraîtrait, sensibles aux griffures, se décolorent très vite, s'abîment anormalement. Voilà, donc toutes ces critiques auraient visiblement une raison un peu d'Apple. Il y a un post notamment de Kosutami sur X qui mentionne que la pomme aurait stoppé la production des accessoires Fine Woven. Le post dit notamment « Fine Woven, c'est fini, puisque sa durabilité était mauvaise. Toute la chaîne de production a été arrêtée et supprimée. » En tout cas, a priori, une autre rumeur serait qu'Apple serait en train de tester un nouveau matériau qui ne serait toujours pas du cuir, parce qu'ils ont cette volonté justement de s'affranchir du cuir d'origine animale, mais de trouver une alternative plus durable et plus respectueuse. Mais à voir, en tout cas, Fine Woven n'aurait pas convaincu ni le grand public ni les critiques. et aurait poussé Apple finalement à changer de stratégie et à continuer de rechercher un matériau alternatif à leur gamme cuir. À voir si ça va vraiment fonctionner, mais en tout cas, on verra, ça sera sûrement, si ça fonctionne, peut-être annoncé plus tôt en septembre à la keynote grand public, hein, plutôt qu'à la WWDC à destination des ingénieurs, où là, il n'y a pas vraiment trop d'intérêt à voir, mais ça ne serait pas étonnant que dans les mois à venir, on ait ce genre d'informations. En tout cas, c'est probable aussi que la commercialisation des coques Fine Woven continue, hein, pour permettre un peu d'épuiser les stocks finalement et permettre à Apple de se débarrasser de ce qu'ils ont voilà, et potentiellement du coup lancer une nouvelle gamme plus tard. Yves Cassel, tu me demandes s'ils ne testent pas avant. Probablement qu'ils testent avant en effet, mais voilà, peut-être que eux, ils s'étaient dit que c'était suffisamment aussi bon que les coques en cuir. Mais finalement, le grand public a dit non. Moi, en tout cas, je sais que j'avais comparé quand j'avais cherché ma coque pour l'iPhone et j'avais vu leur coque Fine Woven et je trouvais qu'elle faisait pas, elle faisait très plastique et pas bonne qualité et elles sont pas agréables à tenir en main. Leur texture Fine Woven est assez, vous savez, ces textures qui vous donnent des frissons un peu. Bah moi, ça faisait ça. Et donc, du coup, je m'étais reportée sur une coque en silicone. Voilà. Oui, bah, je pense que David, en effet, Apple fera tout pour ne pas réintroduire le cuir animal. Je pense, voilà, pour toucher un plus large public. Mais maintenant, il y a plein de... soit des imitations, soit des matières alternatives qui sont tout aussi de bonne qualité, qui peuvent avoir un très bon rendu. En tout cas, Renardo Glacial dit, lui, qu'il a la coque Fine Woven et qu'il la trouve très agréable en main. Comme quoi, voilà, c'est pas quelque chose aussi... chacun a ses avis, quoi. Voilà. Donc à voir. Mais voilà, en tout cas, ça sent mauvais pour leur gamme Fine Woven avec la texture actuelle, en tout cas. On continue, cette fois-ci, on parle de Google. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vous fais un petit peu la petite histoire, hein. Google, tout simplement, s'est séparé de 28 employés qui ont eu une connexion avec les protestations qui se sont déroulées dans deux des bureaux de Google la semaine dernière. Et ils ont également publié un mémo interne dont le The Verge a pu avoir une copie. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, la protestation venait justement à l'encontre du projet de Google de s'impliquer dans le projet Nimbus, qui est un deal à 1,2 milliard de dollars avec le gouvernement israélien pour un contrat de cloud qui inclut également Amazon, hein, d'ailleurs. Et donc, du coup, pour protester contre ce contrat de cloud avec Israël, eh ben, plusieurs des bureaux de Google ont été occupés. On a notamment le bureau du CEO de Google Cloud, Thomas Kurian, qui a été occupé par ses employés jusqu'à ce que les forces de l'ordre aient dû enlever et embarquer finalement les employés. Le mois dernier, Google avait également viré finalement un autre employé qui avait protesté contre ce même contrat lors d'une présentation de la société en Israël, ici à cette occasion. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'intéresse? Alors, je ne vais pas discuter du bien fondé des protestations, du sujet, etc., parce que ça, c'est un point de vue politique. Et moi, j'ai plutôt abordé l'angle tech ici. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a donc ce fameux mémo qui a été publié à l'encontre de tous les employés mercredi dernier, écrit par Chris Racco, hein, le Head of Global Security, la tête de la sécurité chez Google, qui a mentionné en effet que ce comportement n'avait pas sa place sur le lieu de travail et qu'il ne serait pas toléré. Voilà. Et un autre extrait finalement de ce mémo où il mentionne que la grande majorité des employés font la bonne chose, agissent de la bonne manière, mais si vous faites partie des quelques employés qui sont tentés de penser qu'on va passer au-dessus de ce genre de comportement qui viole nos politiques ou nos règlements, pensez-y à deux fois. La société va prendre ses actions de manière extrêmement sérieusement et continuera d'appliquer leur politique, leur long-standing politique, leur politique qui dure depuis pas mal de temps, contre ce type de comportement qui perturbe l'environnement de travail jusqu'à potentiellement le licenciement, ou en tout cas la fin du contrat, mettre fin au contrat. Voilà, je vous ai un peu fait une traduction en temps réel. Pourquoi je vous en parlais et pourquoi je trouve que c'est assez intéressant d'avoir publié ce mémo et d'en parler, c'est que clairement, là, il s'agit d'un vrai avertissement de la part de Google à ses employés. Et ça montre aussi que c'est un peu la fin de l'ère de l'ingénieur roi, finalement, des ingénieurs rois. Je ne suis pas en train de critiquer les ingénieurs, mais il y avait quand même un équilibre entre employeurs et ingénieurs. Assez déséquilibré finalement aux États-Unis dans la Silicon Valley, où finalement il y avait une telle pénurie ou une telle demande importante d'ingénieurs qualifiés que finalement on était prêt un peu à tout faire pour ne pas froisser la communauté des ingénieurs. Alors à la fois ça se traduisait évidemment dans les salaires, dans les avantages, mais également sur le fait de ne pas froisser la communauté avec certains positionnements ou certains deals. Voilà. Et donc, du coup, de prendre très sérieusement pour éviter du bad buzz, etc. Là, clairement, l'avertissement est assez sévère, assez marqué. Et encore une fois, je ne suis pas là pour prendre un parti ou pour l'autre, parce que ça, c'est une autre discussion. Mais ce que je voulais soulever ici ce matin, c'était vraiment le changement de ton et de pouvoir entre les ingénieurs et les sociétés tech. Et clairement, il y a une tendance qui s'inverse ici, où voilà, les sociétés réaffirment leur position, quitte à froisser certains de leurs employés. Donc voilà, c'est assez intéressant, je trouve, comme changement. Changement de caméra. Ah oui, excusez-moi. Oui, désolée, j'avais un câble qui cachait l'oreillette, et donc du coup, je ne l'ai pas vu. Très bien. Désolée pour la mauvaise caméra. Donc voilà, donc ça, je trouvais ça assez intéressant. Je pense que Google verra ça comme bad buzz et still buzz. Non, MMG7F, je comprends ce que tu veux dire, mais je pense pas. Je pense que c'est pas la même chose ici. Parce qu'on n'est pas là pour faire... On parle pas de produits, on parle pas du système d'opération, comme Android, etc., ou de Chrome OS et compagnie. Là, on parle de politique salariale, politique de ressources humaines, dans le milieu du travail. Et donc, tout simplement, qu'est-ce qui se passe ? C'est que c'est quelque chose qui va se savoir dans la communauté des ingénieurs, mais pas que, hein, parce que là, ça touche peut-être d'autres jobs. Et donc, du coup, ça va changer la perspective quand on va chercher un emploi. Et généralement, tu te renseignes hein, quand même sur les parties prises de la boîte potentiellement pour laquelle tu irais postuler. Et donc, c'est le genre de choses où, c'est intéressant. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi sur n'importe quel buzz et bon buzz dans ce cas-là. Ici, pour Google, sur cette politique interne d'emploi, finalement. Voilà, donc c'est là la petite nuance, je pense, qui est importante à donner. Faut pas prendre son lieu de travail pour Twitter et dire n'importe quoi. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, je comprends aussi que certains employés ne soient pas en accord avec certaines actions ou certains positionnements de leur boîte. Et je pense que c'est important de trouver une boîte qui soit alignée avec ses valeurs. Et en fait, du moment où tes valeurs ne sont plus alignées, potentiellement d'avoir une discussion constructive, si c'est possible, pour partager les points de vue et potentiellement faire reconsidérer certaines décisions, ou potentiellement évaluer si toi, tu veux continuer à travailler pour ce type de boîte. Là, le problème, je pense, en effet, c'est qu'ils ont bloqué certains bureaux, du coup, empêché le déroulement du travail. Et ça, c'est un vrai problème. Ils ont mis en risque potentiellement certains projets, vu qu'il y a eu carrément quelqu'un qui a protesté lors d'une présentation du projet. Donc ça, c'est assez problématique. Il y a certains comportements un peu compliqués. Après, il y a eu aussi, en réponse à ce mémo et à cette, à l'action de Google, notamment un groupe qui s'appelle No Tech for Apartheid, qui protège justement contre ces séparations de ses employés par Google, en disant que c'était un acte de retaliation. Alors là, il faudrait enquêter un peu plus et avoir justement des avocats qui s'expriment sur le sujet, entre où est-ce que tu places la limite entre respecter les politiques et les conditions de travail sur ton lieu de travail et envers ta société versus pouvoir t'exprimer et avoir un avis divergent concernant certaines décisions ou certains deals. Mais de là à les mettre en risque, là, tu te positionnes quand même pas forcément de la bonne manière de part de ton employeur, quoi. Donc voilà, il y a la manière de faire les choses qui font que... voilà. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais en tout cas, ce qui est vraiment le plus intéressant, encore une fois, sur cet article, c'est le changement, finalement, dans le secteur de la tech ici et de l'équilibre des pouvoirs qui change ici entre l'employeur, la société tech et finalement les ingénieurs. Ou les employés de société tech, en tout cas. Donc ça, c'est assez, assez intéressant. Voilà pour Google. Et donc, du coup, après Apple et Google, on enchaîne avec Samsung, cette fois-ci, qui là aussi met à jour certaines politiques de travail, de règles de travail. Qu'est-ce qui se passe chez Samsung ? Eh bien, a priori, leur mojo, c'est travailler plus pour contrer l'incertitude commerciale. En tout cas, ça semble être le credo du fabricant de produits électroniques. Samsung a instauré pour tous ses cadres dirigeants une semaine de travail de 6 jours. 6 jours, considérant que les performances de nos principales unités, dont Samsung Electronics Co., n'ont pas répondu aux attentes en 2023, nous introduisons la semaine de travail de 6 jours pour les dirigeants afin d'injecter un sentiment de crise et de déployer tous les efforts pour la surmonter. Ça, c'est une déclaration de l'un des responsables du groupe de Samsung. Alors, dans le détail, qu'est-ce qui va se passer ? Les cadres dirigeants de Samsung Electronics Co., notamment ceux des divisions qui sont liées à la fabrication et les divisions commerciales, travailleront donc soit le samedi, soit le dimanche, après la semaine traditionnelle de 5 jours. Les cadres des filiales qui sont consacrées à la production d'écrans, comme Samsung Display, aux composants électroniques, Samsung Electromechanics, et à l'IT, Samsung SDS, sont soumis à cette semaine de 6 jours dès cette semaine. Donc ça a été révélé par le Korea Economic Daily le 18 avril. Donc les dirigeants, à savoir aussi que les dirigeants de filiales de construction de bâtiments et de construction navale travaillaient déjà volontairement 6 jours par semaine depuis le début de l'année. Donc ils ne sont pas étrangers de ce genre de pratique, de ce changement de politique. Cette augmentation de temps de travail, elle intervient dans un contexte assez particulier puisque Samsung traverse une période financière difficile. Alors ça peut être étonnant, surtout que la semaine dernière, on parlait que Samsung avait dépassé Apple en termes de vente de smartphones, etc. Mais finalement, lors de la publication des résultats financiers du quatrième trimestre 2023, Samsung a déclaré un chiffre d'affaires annuel en baisse quand même de 14% par rapport à 2022. Ça, c'est vraiment pas bon. Pire encore, au cours du premier trimestre 2024, son bénéfice d'exploitation a chuté de 96% par rapport au premier trimestre 2023. C'est quand même assez énorme. Alors du coup, comme je disais, hein, le constructeur sud-coréen est pourtant repassé devant Apple sur le marché des smartphones au premier trimestre, mais même en étant repassé devant Apple, ils accusent toutefois quand même une baisse du nombre d'appareils vendus. Et c'est quand même assez conséquent puisqu'il s'agit de 400 000 appareils de moins que l'année dernière. Et donc, du coup, ça montre que les ventes des Galaxy S23 et S24 n'ont pas réussi à pallier la chute mondiale de semi-conducteurs. La forte dépréciation de la monnaie coréenne, le won, n'aide pas, ainsi que la hausse des prix du pétrole et également l'augmentation des coûts d'emprunt renforcent tout ça. Tous ces facteurs, finalement, renforcent l'incertitude économique pour Samsung. Et donc, du coup, les a amenés finalement à prendre cette action. Alors du coup, cette décision, c'est principalement en Corée du Sud. La législation sur le temps de travail normalement est de 40 heures par semaine, auxquelles s'ajoutent 12 heures supplémentaires potentielles. L'année dernière, le gouvernement sud-coréen, justement, a eu l'intention d'augmenter la durée hebdomadaire de travail à 69 heures. Important, quand même. Suite à des plaintes de certaines entreprises, justement, qui trouvaient difficile de respecter les 52 heures. Et le projet finalement tombé à l'eau. Pourquoi ? Bah, tout simplement, il y a eu des nombreuses protestations de jeunes sud-coréens qui ont protesté pour conserver un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. En tant que Français, je pense que c'est difficile de ne pas être d'accord avec eux. Voilà, on parle quand même de 69 heures d'heures de travail. Mais ce qui est intéressant également, c'est qu'il y avait le Washington Post qui rapportait que certes, alors normalement la législation c'est 40 heures de travail par semaine en Corée du Sud, plus qui peut aller jusqu'à 52 heures avec les heures supplémentaires potentielles. Mais finalement, le Washington Post rapportait qu'en réalité, de nombreux Coréens, Sud-Coréens, travaillaient déjà plus que 52 heures, notamment dans la tech, avec des témoignages qui disent bah, « Travailler jusqu'à 21 heures ou 22 heures est normal pour moi, pour un employé de la filiale de LG. » Et donc, il disait « Alors, quand je vois les gros titres mentionner la semaine de travail de 69 heures, je ne comprends pas. De toute manière, je travaille de longues heures. » Donc, voilà. Donc, ça montre aussi que bah, les entreprises qui disaient bah, « C'est difficile de respecter la semaine de 52 heures », a priori, déjà, ne la respectent pas. Et donc, du coup, en 2022, on s'intéresse un petit peu aux moyennes d'heures travaillées par an. Les Sud-Coréens travaillaient en moyenne 1915 heures par an, un chiffre bien supérieur à la moyenne de l'OCDE et 22% plus élevé que le temps de travail en France. Pas mal, quand même. Donc, à voir, hein, je trouve ça un petit peu... Enfin, voilà, en tant que Française, avec le droit qui protège, le droit du travail qui protège quand même les employés et qui a permis de faire évoluer le temps de travail par semaine, je trouve ça assez choquant. Surtout qu'on le sait que de permettre aux employés de se déconnecter, d'avoir d'autres activités, va leur permettre d'être plus performants lors du temps travaillé, parce que du coup, ils ont pu se réénergiser, se reposer à la fois physiquement et mentalement, et donc être plus concentré, plus performant, à venir avec des idées plus innovantes aussi, enfin plus facilement au travail. Alors que là, enfin vraiment, travailler 6 jours par semaine, c'est pas quelque chose que j'imagine, pour être honnête. Moi, des fois, je donne des formations de design thinking le samedi, après avoir enchaîné une semaine de 5 jours chez Alan, puisque je travaille chez Alan, mais je peux vous dire que je pose systématiquement mon lundi, du coup, pour être sûre que quand je reviens travailler pour Alan, j'ai quand même pu me reposer un vrai week-end, quoi, et pas m'épuiser, que ça reste un choix de pouvoir donner ces formations de design et pas une contrainte. Voilà, donc... Donc voilà, je trouve ça étonnant. D'autant plus étonnant que finalement, ça ne va pas vraiment dans la tendance où certaines sociétés sont passées carrément à la semaine de 4 jours et que même à l'Europe, au sein de l'Europe, c'est potentiellement un peu discuté, quoi. Donc à voir. Ça sera intéressant de voir s'il y a des études chez Samsung qui montrent que ça fonctionne mieux et que ça augmente la productivité. J'ai mes doutes. Voilà. Donc voilà en ce qui concerne Samsung ici. On continue et cette fois-ci on va parler d'un rapport de l'Ofcom. L'Ofcom, c'est l'autorité régulatrice des télécommunications au Royaume-Uni qui nous a partagé donc un rapport sur l'usage des smartphones, des tablettes par les enfants de 5 à 7 ans, et pas que, des plus jeunes en tout cas. Et qu'est-ce qui se passe ? Je vous encourage vraiment à lire le rapport, il est relativement facile à lire, hein, même s'il est en anglais. En tout cas, il montre que depuis l'année dernière, il y a une augmentation de tous les aspects. Et donc, un petit exemple, c'est maintenant de plus en plus d'enfants de 5 à 7 ans possèdent carrément un smartphone. Aujourd'hui, c'est 24% des enfants âgés de 5 à 7 ans qui possèdent leur propre smartphone. Tandis que les trois quarts, 76%, utilisent une tablette. Parce que je pense que l'équipement des foyers est de plus en plus important au Royaume-Uni. Et donc, du coup, d'avoir une tablette à disposition ou sur des temps bien limités passés à l'enfant, ça se passe de plus en plus. Et donc, du coup, c'est intéressant parce que ça montre aussi une tendance d'augmentation comparée à il y a un an. Il y a une plus grande proportion des enfants de 5 à 7 ans qui vont en ligne pour pouvoir envoyer des messages ou faire des appels vidéo ou voix ou carrément regarder du contenu streamé en live. Donc tout ça, il y a vraiment une tendance d'augmentation. Notamment le contenu streamé en live, il y a une augmentation quand même par rapport à l'année dernière qui était de 39% l'année dernière à 50% cette année. Autre tendance qui va dans la même veine, c'est l'utilisation des réseaux sociaux, ou que ce soit site internet ou application, pour les 5-7 ans, qui s'accroît chaque année, notamment avec WhatsApp, qui augmente de 29% à 37%. On a TikTok qui a augmenté de 25% à 30%. D'utilisation, et Instagram, qui l'année dernière était à 14%, a augmenté de 22%. Et finalement, le réseau social qui a le plus augmenté, puisqu'il a carrément, il a carrément doublé, c'est Discord, qui passait l'année dernière un usage de 2% à 4% cette année. Et donc, du coup, autre information intéressante, je cite pas tout parce que le rapport est assez long, mais j'ai noté quelques points de données que j'ai trouvé particulièrement intéressants. Et notamment, on a 2 parents sur 5 pour les enfants âgés de 5 à 7 ans, donc 2 parents sur 5 qui disent que ils utilisent les réseaux sociaux ensemble avec leurs enfants, tandis que un tiers, 32%, un tiers des parents disent que finalement, leurs enfants âgés de 5 à 7 ans utilisent les réseaux sociaux de manière indépendante. Voilà, donc ça, je trouve ça intéressant. Et encore une fois, ce n'est pas forcément pour pointer du doigt, mais ça montre un petit peu l'encadrement auprès des plus jeunes et la sensibilisation aussi des enfants, des plus jeunes, par rapport au risque de l'activité en ligne. On a notamment aussi les 3/4 des parents des enfants qui sont âgés de 5 à 7 ans qui vont en ligne et qui disent que leurs enfants, ils ont parlé à leurs enfants sur justement comment rester en sécurité lorsqu'ils vont en ligne. Donc là, c'est quand même les 3/4 qui ont eu cette discussion critique avec leurs enfants et à peu près la moitié des parents qui disent qu'ils ont cette même discussion régulièrement, à peu près plusieurs fois, enfin pas toutes les semaines, mais every few weeks, donc un peu à intervalles réguliers, quoi. Pas toutes les semaines, mais voilà. Donc ça, c'est plutôt encourageant quand même que régulièrement les parents aient cette discussion avec leurs enfants sur le fait de rester en sécurité lorsqu'ils vont en ligne, pour ouvrir la discussion, rappeler aux enfants que voilà, certains contenus peuvent être choquants et qu'ils peuvent venir en parler aux parents, qu'ils sont là pour en parler ensemble et mieux comprendre ce qui se passe, pour décortiquer un petit peu ce qu'ils ont vu. Par contre, la recherche montre aussi qu'il y a une déconnexion entre les enfants un peu plus âgés qui sont potentiellement exposés à du contenu choquant en ligne et par rapport à ce qu'ils sont prêts à partager à leurs parents. Finalement, on sait que un tiers des enfants de 8 à 17 ans qui ont vu quelque chose d'inquiétant, de choquant ou de mauvais en ligne ces 12 derniers mois, c'est 32% qu'il dit. Et quand on regarde les parents, c'est seulement 20% des parents de ces enfants de ce même groupe d'âge qui ont dit que leurs enfants étaient venus leur parler. Donc voilà, il y a quand même un gap de 12% ici d'enfants qui reportent avoir vu du contenu choquant en ligne, mais ne sont pas forcément allés voir leurs parents ou dont les parents ne sont pas au courant. Donc ça, c'est un petit peu inquiétant. Ça touche malheureusement pas mal les jeunes filles aussi, qui sont plus sujettes finalement à faire l'expérience de ce type de contenu choquant ou d'interaction potentiellement dangereuse en ligne, via texte ou message ou sur les réseaux sociaux. Voilà. Et voilà. Donc, toujours à rester un petit peu alerte sur ce type de sujets qui sont très, très importants. En tout cas, voilà, il y a cet enjeu vraiment à sensibiliser à la fois les parents et à la fois les enfants. Ce qui est rassurant quand même, c'est à peu près la grande majorité des enfants, hein, à peu près 9 enfants sur 10 qui sont âgés de 8 à 17 ans, qui vont en ligne, se rappellent avoir eu au moins une leçon de sensibilisation sur la sécurité en ligne à l'école, et notamment les 3/4 qui disent que ça a été utile pour eux. Donc quand même, il y a du progrès à ce niveau-là quand même sur la sensibilisation et sur le fait que ça aide les enfants, quoi, ou les ados, parce que là, on parle de 8 à 17 ans. Donc voilà, ça donne un petit peu quelques tendances ici. D'autres infos intéressantes, c'est l'analyse des comportements, des tendances de comportement de cette population des enfants. Alors, enfants, encore une fois, enfants, ados, hein, de 8 à 17 ans. Ici, qui notamment disent en grande partie, il s'agit d'utiliser les réseaux sociaux de manière passive. C'est-à-dire qu'ils vont principalement liker ou suivre des comptes. 44% disent que principalement ils likent et suivent des comptes plutôt que d'être active et de partager, commenter ou carrément créer du contenu, où là ça représente plutôt 28% des enfants de 8 à 17 ans. Les participants qui eux sont actifs disent que quand ils partagent du contenu qu'ils créent eux-mêmes, ils le font de manière assez stratégique, par exemple en partageant des posts temporairement via des stories. Donc, c'est limité dans le temps, ou en sélectionnant un plus petit cercle d'amis sur un réseau social privé ou sur des comptes privés. Voilà, donc ça, c'est assez intéressant, assez rassurant aussi, finalement, sur le fait de se protéger un petit peu. Voilà, à voir. Donc, je trouvais ça intéressant d'avoir ce rapport et que ce rapport soit communiqué au grand public, voilà, qu'il soit accessible en ligne. Vous pouvez y accéder si vous êtes intéressé. On continue avec d'autres données, cette fois-ci, qui ont été partagées par Smartick, qui s'intéresse un petit peu sur le temps passé devant les écrans parmi les différents pays dans le monde ou carrément les continents pour des plus grandes tendances. Et donc, du coup, on a carrément une carte ici, que je vais vous montrer à l'écran, qui montre un petit peu, voilà, les pays qui passent le plus ou le moins de temps devant leur écran. Et donc, on a une échelle qui va à moins de 4 heures à plus de 9 heures, finalement. Et on voit que ben, le pays qui est le meilleur élève, c'est-à-dire le meilleur élève qui passe le moins de temps devant son écran, c'est le Japon, qui a le plus bas score en termes de temps passé devant l'écran avec seulement 3h45. Déjà, moi, je trouve que 3h45, c'est assez impressionnant, mais en même temps, ça comptabilise à la fois les smartphones, la télé, la tablette, l'ordinateur, etc. Donc, ce n'est pas forcément étonnant. Ici, moi, je sais que je travaille sur ordinateur, on pourrait dire que je dépasse largement, puisque le temps passé à travailler, finalement, c'est du temps passé devant l'écran déjà. La France, où est-ce que se situe la France? On est à 5h26 ici pour la France, qui est plutôt dans la moyenne basse, finalement. Moi, je trouve ça énorme, mais c'est plutôt quand même dans la moyenne basse, un tout petit peu supérieur, finalement, à la Chine, qui est à 5h25 ici. Pour les pays qui sont plutôt vraiment dans la moyenne haute en termes de temps passé devant l'écran, eh ben, on va avoir quand même l'Argentine, le Brésil aussi, qui est assez impressionnant. Voilà, vers des alentours qui vont dépasser les 9 heures. Donc, assez impressionnant. Donc, le Chili a pas encore 9h, mais 8h36, donc impressionnant. L'Afrique du Sud aussi, qui est impressionnante, avec un temps d'écran de 9h38 quand même. Les États-Unis, eux, pour référence, se situent plutôt à 6h59 passés devant les écrans. Voilà. En tout cas, voilà. Non, mais écoutez, c'est pas trop mal. En tout cas, côté Danemark, on est plutôt aussi très bon élève ici aussi, parce qu'on a un temps passé devant l'écran de 4h58. Donc, le plus bas temps d'écran, finalement, en Europe. Le plus haut temps d'écran en Europe, ça, c'est plutôt le Portugal, avec 7h37 passé devant les écrans. Donc voilà, je trouvais ça assez intéressant de voir un peu les tendances ici sur le temps passé. Un autre graphe ici nous montre un peu les pays qui passent le plus ou le moins de temps devant leur ordinateur. Et du coup, c'est intéressant parce que ça donne aussi une idée de quels écrans ils utilisent le plus entre smartphone et ordinateur aussi. Donc voilà. Et donc, on peut voir notamment qu'au Japon, c'est seulement 3h45 passées devant un ordinateur. Ici, en France, ça va être plutôt 2h52. Voilà, c'est pas tant que ça, hein. Donc, on voit aussi, ça permet de voir aussi les tendances d'usage entre smartphone et ordinateur. Par exemple, la Belgique se distingue comme un pays de gros utilisateurs d'ordinateurs dans les 3 heures environ, et donc faible utilisateur de smartphone. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi de plus? Voilà, donc là, on a l'usage mobile, pour ceux qui sont assez intéressés, le Japon qui a 1h54 d'utilisation du smartphone. C'est assez peu, quoi, vraiment. Assez peu, assez peu. En France, on est à 2h34 passées sur l'écran du smartphone. Alors que quand on compare, vous voyez, avec les États-Unis, eux, ils sont à 3h28. Quand on compare avec la Russie, ils sont à 3h40. Quand on compare avec le Brésil, eux, ils ont le plus long pa temps passé devant un écran de smartphone avec 5h28. Voilà. Donc ça donne un petit peu quelques idées. Si vous êtes curieux, je vous invite vraiment à aller voir un petit peu ces graphes, assez faciles à lire en plus. Voilà. La Russie, par exemple, est avant tout dominée par les écrans d'ordinateur aussi. Alors que la Chine et l'Inde le sont largement par les smartphones. Ce qui n'est pas étonnant, hein, ça confirme certaines tendances aussi. Voilà en tout cas pour les tendances d'usage et de temps passé sur l'ordinateur, le smartphone, etc. à travers les différents pays. On continue et cette fois-ci, on va parler donc de TikTok Lite. Qu'est-ce qui se passe et de l'Union européenne? Qu'est-ce qui se passe avec TikTok et l'Union européenne encore? Finalement, TikTok, c'est un peu la bête noire, on va dire, en ce moment. Eh ben, tout simplement, c'est quoi déjà le principe de TikTok Lite? L'application TikTok Lite a pour principe de rémunérer les utilisateurs en échange du temps qu'ils passent dans l'application. Le risque qui pèse un petit peu sur l'application à l'heure actuelle, c'est qu'elle pourrait être bloquée dès le jeudi 25 avril. En effet, l'Union européenne veut que ByteDance, donc la société qui possède TikTok, supprime son système de récompenses rémunérées. Alors, à l'heure actuelle, TikTok Lite est en test en France et en Espagne, mais elle suscite en tout cas la polémique justement à cause de son système de récompenses. Le principe, c'est que l'application offre des jetons que l'on peut convertir en bons d'achat en échange du temps passé sur TikTok Lite. Chaque jour dans l'application, le fait d'ouvrir l'app rapporte 112 points, une demi-heure de vidéo en offre 630, tandis qu'un parrainage peut rapporter jusqu'à plusieurs milliers de points d'un seul coup. Et donc, du coup, très clairement, TikTok incite à liker, à s'abonner pour gagner plus de points. Et donc, du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait? C'est que la Commission européenne a ouvert hier, lundi 22 avril, une procédure formelle à l'encontre de TikTok au titre de la législation sur les services numériques. Donc ça, c'est un communiqué qui a été publié hier et donc qui dit aussi que les très grandes plateformes en ligne sont tenues de présenter un rapport d'évaluation des risques, comprenant des mesures visant à atténuer tout risque systémique potentiel avant de lancer toute nouvelle fonctionnalité susceptible d'avoir une incidence critique. Et donc, qu'est-ce que craint finalement la Commission européenne avec TikTok Lite et ce système? C'est que ça soit contraire aux engagements de la Commission européenne pris vis-à-vis de la protection des mineurs. Alors, officiellement, pourtant, TikTok Lite est réservé aux personnes majeures, puisqu'il y a un selfie qui est obligatoire pour justement vérifier l'âge. Mais d'après la Commission, ça ne serait pas assez, justement, puisqu'elle déplore l'absence de mécanismes efficaces de vérification d'âge sur TikTok. Et donc, la Commission ici craint les risques liés à l'effet de dépendance des plateformes avec ce système assez addictif de récompenses rémunérées directement dans l'app. Et donc, concrètement, qu'est-ce qui se passe hein, pour TikTok Lite ? Qu'est-ce qu'il leur reste finalement comme option ? Eh bien, ByteDance doit soumettre un rapport d'évaluation des risques qui donc s'intéresse notamment à la santé mentale des mineurs pour avoir le droit de lancer cette fonction. Une enquête va avoir lieu sur les pratiques du groupe qui s'est permis du coup de commercialiser TikTok Lite sans réaliser le moindre rapport. Donc ça, ça a été quand même pas mal pointé du doigt, notamment la commission CIT. TikTok a maintenant jusqu'au 23 avril, c'est-à-dire aujourd'hui. Voilà, petit rappel. Donc TikTok a maintenant jusqu'au 23 avril aujourd'hui pour soumettre le rapport d'évaluation des risques à la commission et jusqu'au 3 mai pour fournir les autres informations demandées. Et la commission a évidemment déploré hein, le non-respect des dates jusque-là. Et donc du coup, ça montre aussi que donc, le délai est assez court, mais en même temps, ce rapport d'évaluation de risque aurait dû être communiqué avant la sortie de cette fonctionnalité et de ce système de rémunération. Et donc à cause de TikTok Lite, l'entreprise de ByteDance pourrait être condamnée à une amende représentant 1% de son chiffre d'affaires mondial, puisque ça fait partie des mesures du DSA. Le réseau social a jusqu'à 24 avril pour se justifier au risque de se voir interdire son système de récompense de manière provisoire le temps de l'enquête approfondie. À voir hein, qu'est-ce qui va se passer. En tout cas, ce n'est pas la seule raison pour laquelle TikTok est un peu dans le collimateur des autorités. Hein. Pour rappel, TikTok est également en danger aux États-Unis où le Congrès se prépare un peu à se prononcer sur l'interdiction du réseau social. Voilà. Donc, est-ce que c'était vraiment le bon moment de se mettre en danger auprès de la Commission européenne ? À voir. En tout cas, ils ont une stratégie assez, assez agressive ici en ce qui concerne les systèmes de rémunération. Voilà, je regarde un petit peu vos commentaires dans la chatroom. J'ai pas TikTok. Moi, j'ai TikTok, mais j'ai pas le réflexe. Trop de réseaux sociaux. J'ai pas le réflexe de l'ouvrir. Mais je suis d'accord avec Sir Newt, il y a des trucs bien sur TikTok. Il y a des contenus assez originaux, ouais. Il y a Naotech sur TikTok. Donc, il y a du chouette contenu. Donc, voilà. Voilà, en tout cas... Payer pour l'engagement, c'est une trend. C'est comme Twitter qui rémunère ses blues qui font des posts attractifs. Ouais. Mais en fait, le problème, c'est... Il y a une notion de dark pattern, d'encourager des comportements qui pourraient être nocifs, finalement. Nocifs pour les utilisateurs. Et ça, c'est un vrai danger et un vrai problème. Rémunérer les gens... pour passer du temps à regarder des vidéos. Je trouve que c'est un vrai problème parce que ça incite finalement et ça va inciter les plus faibles, enfin ceux qui n'ont pas forcément de moyens de se rémunérer, pas de salaire, pas d'argent de poche, etc. Et donc, ça cible quand même les plus jeunes. Ils ont beau dire « Ah non, mais on a un système de vérification d'âge », moi, je trouve quand même... que de par le système de rémunération, l'échelle de rémunération, ça vise quand même ceux qui n'ont pas de revenus, etc. Donc ceux qui seraient plus tentés finalement d'utiliser ça pour des mauvaises raisons, juste pour passer du temps à regarder. Alors après, récompenser parce qu'on partage, bah ça c'est des techniques de referral, ce qu'on appelle de referral, de promotion. Nos services, inciter ses amis à venir, bah ça, toutes les boîtes le font. Je veux dire, Uber le fait, Deliveroo le fait, enfin, beaucoup d'apps le font sur... pareil, quand on dit, même les banques le font, les banques en ligne, en disant, bah, si vous parrainez quelqu'un, vous serez rémunéré sur votre compte bancaire, etc. Pas toutes, mais beaucoup d'apps et de services le font. Mais par contre, enfin... Recommander un service, c'est une chose. Inciter des comportements comme passer du temps sur une app, c'en est une autre. On pourrait inciter des comportements qui sont bénéfiques, comme voilà, Withings le fait, sauf que ses rémunérations ne sont pas monétaires, mais Withings le fait dans un certain sens, puisqu'en fait, on est récompensé par voir son nombre de pas, Apple Health aussi, par son nombre de pas, par atteindre ses objectifs, on obtient des petits badges, etc. Et donc, du coup, il y a, je pense, aussi d'autres services qui permettent d'avoir des réductions en fonction de comportements positifs et bénéfiques. Mais c'est la différence entre des comportements qui sont jugés bénéfiques pour une personne, qui vont inciter à prendre des bonnes habitudes, versus des comportements qui vont potentiellement créer des mauvaises dépendances ou des mauvais comportements. Donc voilà. Et après, définir ce que c'est un bon comportement ou un mauvais comportement, bah, je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a cette recherche sur l'impact de cette fonctionnalité sur le public de TikTok sera intéressant. Donc, à voir. En tout cas, vous êtes informés concernant TikTok. On continue et on amorce doucement notre virée vers le gaming. Et on commence notamment avec le jeu vidéo The Crew. Le jeu vidéo The Crew, c'est quoi ? Eh ben, c'est un jeu de Ubisoft qui permet en fait à plusieurs... à 12 millions de joueurs de pouvoir prendre part à des courses automobiles en ligne ensemble. C'est un jeu qui est sorti à l'époque en 2014. Et Ubisoft avait informé finalement qu'ils allaient mettre fin à ce jeu. Et ils sont passés à l'acte puisqu'ils ont arrêté les serveurs le 1er avril dernier. Voilà, il est carrément maintenant impossible de démarrer le jeu The Crew. Et donc du coup, on peut même voir que le jeu The Crew, dans le programme regroupant les jeux Ubisoft, apparaît dans la rubrique « jeux inactifs hein, ». Et donc, il est vraiment impossible de le démarrer. Et donc du coup, ça a amené sur les réseaux sociaux de nombreux joueurs à s'indigner de ne plus pouvoir avoir accès à un produit qu'ils avaient pourtant payé. Et beaucoup regrettent ainsi l'époque où le format physique et l'absence de connexion Internet auraient évité finalement d'en arriver là. Voilà, donc ça c'est sûr que c'est un vrai, ça marque un vrai tournant. J'ai plus accès à l'article. Punaise. Ah là 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 là. Alors attendez, je vais essayer d'avoir accès à l'article ailleurs. Excusez-moi, les espèces de blocages de pop-up qui arrivent a posteriori. C'est très pénible. Alors, voilà. Donc, j'ai récupéré l'article. Mais, justement, un avocat qui s'est exprimé, hein, il est associé au cabinet ACBM et il est spécialisé, justement, dans le droit de la propriété intellectuelle. Et il a dit, en effet... En réalité, lorsqu'un joueur achète ou télécharge un jeu vidéo, il acquiert généralement une licence d'utilisation du logiciel plutôt que la propriété du jeu en tant que tel. Et donc, du coup, il y a carrément une notion que l'éditeur reste entièrement libre d'effectuer des mises à jour, des correctifs, des ajouts de contenu, voire de retirer le jeu du marché à sa discrétion. Et donc, du coup, c'est pas tout. L'utilisateur accepte aussi des conditions d'utilisation. Ces conditions d'utilisation, elles permettent aux éditeurs de jeux vidéo d'avoir la possibilité de restreindre l'accès à un jeu, notamment en ligne, en cas de violation des termes de la licence, tels que le piratage, la tricherie, le non-respect des règles de conduite, ou simplement pour des raisons techniques comme la maintenance des serveurs ou la correction de bugs présents dans le jeu. Et donc, du coup... Il y a eu carrément même un mouvement et une suggestion où on voulait pouvoir lancer le jeu après la fin des serveurs. Et on peut se dire, mais pourquoi ? Parce que sans les serveurs, on ne pourrait pas faire tourner le jeu. Mais en fait, tout simplement, il y avait quand même plusieurs fans qui avaient lancé un projet qui s'appelait The Crew Offline Online Server Emulation, qui avait pour but de continuer avec des serveurs privés et qui étaient en cours de développement par la communauté. Et donc, du coup, c'est ça aussi où ça a créé un petit peu l'émoi, finalement, dans la communauté des joueurs du jeu The Crew. C'est qu'en fait, il y avait quand même un projet de pouvoir maintenir, finalement, l'accès au jeu après que Ubisoft s'est exprimé sur le fait d'arrêter. Et donc, du coup, il y a carrément le YouTuber américain Ross Scott qui a décidé de lancer une pétition sur le site avec Stop Killing Games. Et en raison de l'envergure un peu du jeu et de l'importance des lois de protection et de consommateurs en France, cela représenterait a priori la meilleure opportunité à ce jour de tenir un éditeur responsable de son action. En tout cas, c'est ce que lui affirme. Et la communauté rêve même de demander à plusieurs gouvernements de modifier leur législation afin d'interdire la pratique qui consiste à rendre inaccessibles des jeux vidéo commercialisés lorsque le support de l'éditeur prend fin. Sauf que, encore une fois, les serveurs, c'est pas gratuit. Donc ça voudra dire aussi qu'il faudra changer le business model ici de ces jeux et de ces sociétés pour s'assurer qu'ils arrivent à faire tenir des serveurs. Et pareil, le maintien des serveurs, les employés qui travaillent là-dessus, ben, c'est quand même des coûts. Voilà. Donc, à voir. En tout cas, c'est une initiative qui a quand même peu de chances d'aboutir, hein, façon réaliste. En tout cas, l'avocat s'est exprimé. Du point de vue juridique, les joueurs étant considérés comme de simples utilisateurs dépourvus de tout droit de propriété sur le jeu lui-même, il leur est impossible de contester la décision d'Ubisoft de révoquer l'accès au serveur du jeu The Crew. Encore une fois, ça, c'est l'avocat spécialisé dans le droit de propriété intellectuelle, Antoine Chéron, qui s'est exprimé. Voilà, et c'est sûr que c'est un peu triste pour tous les joueurs qui continuent à jouer au jeu. La seule option finalement qui reste ici, et c'est là peut-être le problème, c'est de repasser à la caisse et d'acheter un épisode plus récent de la série comme The Crew Motorfest qui est sorti en septembre 2023. Pourquoi ont-ils fait cela, Yves Castel? Bah, c'est une bonne question, mais c'est souvent quand une société prend la décision d'arrêter un service, un produit, un jeu, c'est parce que finalement, l'intérêt pour le jeu, d'un point de vue business, a moins de valeur que de se reporter, reporter les ressources et l'investissement sur d'autres jeux. Tout simplement, hein, de manière très très pragmatique, c'est une décision business. Voilà, parce que les ressources et l'argent qui sont investis pour maintenir le jeu pourraient être investis ailleurs, tout simplement. Voilà, et ça, c'est un vrai important, c'est très très important de ne pas mettre les différentes sociétés ou les business en risque et de les forcer à maintenir des jeux, des services, parce que là, on parle de l'industrie du jeu vidéo, mais en fait, tu pourrais étendre ça à des services. Et parce qu'en fait, qu'est-ce que ça ferait? L'effet pervers, c'est qu'en fait, ça rendrait toutes les boîtes très frileuses de lancer des nouveaux services et de tester des choses, parce qu'en fait, ils auraient plus de flexibilité sur le fait de pouvoir y mettre un terme. Et ça, c'est un vrai frein à l'innovation. C'est un vrai problème. Voilà. Après, je pense que Ubisoft aurait peut-être pu travailler un peu plus proche avec la communauté pour permettre à ce projet, peut-être, de voir le jour. Et peut-être qu'ils vont revenir dessus, hein, à voir. Mais moi, je comprends qu'ils ne veulent pas maintenir les serveurs, tout à fait, Samuel. Je suis d'accord avec toi. Mais en effet, il y a le projet de la communauté que je trouvais intéressant. Voilà. Donc, il y a un juste milieu ici à trouver, d'être peut-être plus proche et à l'écoute de la communauté pour amorcer cette transition en douceur et peut-être prévenir un peu en avance aussi pour tenir les calendriers. Et puis voilà. Donc voilà en tout cas en ce qui concerne le jeu The Crew, ici, sur la décision qui a été prise. On enchaîne avec un autre jeu qui fait beaucoup, beaucoup parler de lui, c'est Fallout. Pourquoi ce jeu fait parler de lui? Eh bien, tout simplement, c'est carrément toute la franchise hein, qui est en pleine effervescence à l'heure actuelle, puisqu'il y a eu la sortie de la série télé adaptée de la franchise. Et Amazon Prime Gaming compte bien en profiter hein, pour pouvoir surfer sur la tendance et la hype qui est générée suite à la sortie de la série et avoir de plus en plus de personnes qui jouent au jeu Fallout. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, voilà, le lancement de la série adaptée de production de Black Isle Studio et Bethesda sur Prime Video a été très réussi. On pourra en parler hein, pour ceux qui ont vu la série. Je vois que Oleg nous dit excellente série d'ailleurs. Moi, j'ai vu que les deux premiers épisodes et j'ai beaucoup, beaucoup aimé jusqu'ici. J'ai hâte de voir la suite. Et donc, c'est une série qui a été réalisée par Jonathan Nolan, Elle nous plonge donc dans l'atmosphère post-apocalyptique et rétro-futuriste très particulière à la franchise Fallout, à l'univers. Et ça nous permet, donc la série nous permet de suivre les péripéties de Lucy et Maximus, qui a visiblement donné ou redonné envie à certains de repartir à la découverte de la licence vidéoludique Fallout. Donc c'est une licence assez culte. Hein. Et donc Amazon, là... joue un petit peu son jeu, il compte bien surfer finalement sur la vague initiée par sa série maison et il vous offre plusieurs jeux Fallout au travers de son service Prime Gaming. Et c'est là où c'est intéressant finalement, on l'avait vu déjà avec The Last of Us à l'époque, mais de surfer un petit peu sur cette vague de regoût, d'entrain et d'engouement autour de la franchise pour avoir des offres de commercialisation et de jeux plus intéressantes ici. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Donc, évidemment, il y a certains jeux qui sont offerts. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un jeu un peu moins connu qui est offert aussi, Fallout Tactics. Alors, Fallout Tactics, c'est quoi ? C'est Fallout Tactics Brotherhood of Steel, la confrérie Alors, Steel, c'est quoi comme métal ? Je sais plus ce que c'est comme métal. Steel, c'est acier ? J'ai un doute. Je connais. Acier. Ah, c'est bon. J'ai pas dit de bêtises. J'avoue que j'utilise pas le mot acier très couramment quand je parle anglais. Merci la chatroom. Et donc, c'est la confrérie d'acier. Et donc, du coup, c'est un jeu qui vient de fêter ses 23 ans, ni plus ni moins, parce qu'il était sorti en 2001. Ouf, ça ne nous rajeunit pas. Et il change radicalement de ce que connaissent les aficionados de la franchise, puisqu'en fait, il s'agit plus de l'action RPG pure. Il propose un gameplay axé sur de la stratégie tour par tour. Et donc, du coup aussi, ce qui est intéressant, c'est que l'histoire se veut un peu originale, puisqu'en fait, elle suit sa propre trame, sans lien vraiment avec les précédents titres, et elle va même jusqu'à carrément contredire certains événements de la franchise. Et donc, dans Fallout Tactics, vous êtes un paria formé pour devenir un soldat d'élite, et vous naviguez entre les bases de la confrérie et dirigez des troupes de 6 unités pour venir à bout de différentes menaces à abattre sur les terrains d'opération. Et donc, du coup, Prime Gaming permet d'offrir ce jeu avec l'offre Amazon Prime. Les abonnés peuvent profiter des contenus bonus dans certains jeux, d'un abonnement offert à une chaîne Twitch chaque mois et de jeux gratuits via les services d'Amazon. Alors, dans le cadre de ces offres promotionnelles autour de la série Fallout, Amazon Prime Gaming offre des clés pour jouer à Fallout Tactics sur PC via la plateforme GOG. Jusqu'au 24 mai 2024. Vous avez un peu le temps, hein, pas de panique ici. Vous avez un peu de temps pour vous procurer la clé. Mais en tout cas, pour en profiter, il vous suffit d'avoir un abonnement Amazon Prime, un compte gratuit sur GOG ou GOG, je ne sais pas comment le dire, je ne connais même pas cette plateforme. Et ensuite, vous rentrez sur la page Prime Gaming du jeu et cliquez sur obtenir le jeu. Vous recevrez du coup un code sous 2 jours maximum. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à vous rendre sur GOG pour entrer le code dans la section dédiée. Voilà, donc pour ceux qui sont intrigués et qui n'ont pas encore GOG, on dit. OK, Good Old Games. Ah, d'accord, merci pour l'info. Donc, on dit GOG. OK, merci la chatroom. Vous voyez que je ne suis pas une grande gameuse, hein, moi-même. Voilà. Et donc, du coup, autre effet rigolo. Donc là, on a des jeux qui sont mis à disposition gratuitement. Et puis, on a également le jeu Fallout 76 qui, lui, suite à la sortie de la série, bat carrément des records sur Steam après le succès de la série lors de sa sortie. Et donc, du coup, et encore une fois, ça reproduit des phénomènes qu'on avait déjà vus avec The Last of Us et notamment Cyberpunk 2077, hein, qui ont eu des regains de notoriété grâce à leur adaptation série. Et donc, évidemment, on pouvait s'attendre à un phénomène un peu similaire avec Fallout, mais ce avec quoi on ne pouvait pas forcément s'attendre, c'est ce jeu spécifique de Fallout 76, parce que à l'époque, il avait été jugé un peu catastrophique, cet opus. On l'avait pas forcément vu venir. Il était considéré comme l'un des pires jeux jamais développés par Bethesda, ni plus ni moins. Et pourtant, 6 ans après sa sortie, le voilà qui bat maintenant des records en chaîne. Donc ça, c'est assez intéressant. Sur Steam, On a donc Fallout 76 qui avait déjà battu un record historique la semaine dernière avec 40 000 joueurs simultanés. Une performance impressionnante pour un jeu qui avait été vraiment pointé du doigt lors de sa sortie et dont les multiples mises à jour n'avaient jusque-là jamais réussi à le réhabiliter. Hein. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe ? On pouvait se dire que c'était bon, un heureux accident, mais finalement, qu'est-ce qui se passe ? C'est Fallout 76 une deuxième fois a battu son record ce samedi 20 avril, avec plus de 64 000 joueurs connectés en même temps sur le jeu, et puis une troisième fois ce dimanche 21 avril, avec plus de 73 000 joueurs connectés simultanément, un pic presque 6 fois supérieur à l'ancien record de fréquentation de jeu, qui était à l'époque de 13 000 joueurs en février 2024. Ce qui est quand même la différence entre son ancien record de février 2024 de 13 000 joueurs et là son record actuel de 73 000 joueurs est assez remarquable. Et donc ça pose la question finalement de est-ce que Fallout 76 est en train de renaître de ses cendres et que finalement bah, toutes les mises à jour que Bethesda a pu faire sur le jeu sont en train peut-être de réhabiliter le jeu. Est-ce que finalement il vaut la peine d'être joué. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont joué. Un grand merci à ceux qui nous soutiennent ce matin. Que d'amour. Un grand merci à Vrodka, à Tonila78, à Rémi CLS, à MKL1981, à Baron Maritane, à Hippomony16 et à Damien Bouche. Merci à tous pour vos soutiens. Ça fait trop plaisir. Voilà. Et je regarde un petit peu ce que vous dites dans la chatroom. Il y a Grolb qui dit « Je l'ai récupéré et installé juste avant le mug. » Bah, du coup, tu pourras nous dire peut-être la semaine prochaine qu'est-ce que tu en auras pensé. Je regarde un peu. Les films, séries sur les jeux, c'est créer un produit rentable qui fait un effet de rebond pour le jeu en lui-même. Quelle stratégie de fou. Ouais, tout à fait, Sean le Mouton. C'est intéressant, je trouve, comme mouvement et comme stratégie. Et c'est vrai que quand t'aimes un univers, t'as pas envie d'en sortir. Moi, la première, Harry Potter, ça a complètement marché pour moi. J'ai acheté le jeu. Alors, j'y ai pas joué tant que ça parce que passer l'émerveillement de se balader à Poudlard et dans l'univers d'Harry Potter, ben, le gameplay était vraiment mauvais et très, très répétitif. Mais ça m'a fait quand même acheter le jeu, quoi. Donc, pour eux, c'est rentable. Jean Lamac qui nous dit « J'ai joué à tous les Fallout depuis leur sortie. Oui, je suis vieux. Fallout 76 était truffé de bugs au début. » Bah, ça vaut peut-être la peine de retester. Hein. Dire que j'ai acheté Fallout 76 dans une maison de la presse pour 4,95€ avec les 10 conseils pour débuter dans Fallout, genre 2 ans après sa sortie. Il y en a qui préfèrent Fallout 4. Un grand merci, Electrime, pour ton soutien. Un grand merci à toi. Donc voilà, en tout cas, on se pose la question, hein, ici. Est-ce que Fallout 76 renaît de ses cendres après des mauvaises critiques pour le jeu ? Est-ce que finalement, aujourd'hui, vaut la peine d'être joué ? Bah, je vous invite peut-être à tester. Si en plus, il est gratuit, c'est peut-être l'occasion, hein, c'est le type de jeu qui vous intéresse. Voilà, vous êtes avertis dans la chatroom. Et puis, on termine par une petite brève ici. C'est une brève qui concerne une série qu'on aime beaucoup. Je pense que je sais qu'il me semble que dans la chatroom, il y en a beaucoup qui aiment la série dans la chatroom parce qu'on en a parlé pas mal de fois dans le mug. Et je me suis permise d'en parler, mais je sais que Jérôme aussi en a parlé. Et c'est For All Mankind, une série de science-fiction qui utilise une uchronie, donc la réécriture de l'histoire telle que nous la connaissons par la modification d'un événement passé. Et il s'agit ici de l'exploration de la Lune et surtout du premier pas sur la Lune, finalement, et surtout de la nationalité du premier homme qui a marché sur elle. Et donc, dans For All Mankind, qu'est-ce qui se passe ? Bah, le pitch, c'est que c'est les Soviétiques qui y sont parvenus avant les Américains, ce qui a pour effet de pousser les États-Unis à dépasser l'Union soviétique en tout point. Ils s'emballent dans une course à dépasser à tout prix les Soviétiques, qui va enchaîner du coup plusieurs événements qui vont faire diverger de plus en plus notre histoire entre du coup l'Uchronie proposée dans la série et notre histoire réelle. Et donc des conséquences, des changements qui ont des conséquences dans des décennies, plusieurs décennies. Et donc la première série, la première saison avait lieu dans les années 70, la deuxième était dans les années 80, la troisième dans les années 90 et la toute dernière, la quatrième, dans les années 2000. Et donc là, la question, c'est est-ce qu'on va avoir une cinquième saison ou pas ? Et bien là, je vous laisse tout simplement... découvrir avec moi l'information. Est-ce qu'il y aura, oui ou non, une nouvelle saison 5 pour All Mankind ? Eh bien, écoutez, c'est écrit dans les étoiles, puisque oui, le compte Twitter de la série a bien confirmé la saison 5 pour For All Mankind. Mais au-delà de confirmer la saison 5, ils ont également annoncé une autre information de taille, puisque il va y avoir également un spin-off de la série For All Mankind qui s'appelle Star City. Ça fera peut-être écho à certains d'entre vous qui ont suivi la série, puisque Star City, eh ben, ça va être la base lunaire des Soviétiques. Voilà. Ça permettra du coup de suivre l'exploration et la conquête de la Lune du point de vue de l'équipe soviétique, avec au premier plan donc les personnages qui ont rendu cet exploit possible et les risques qu'ils y ont encourus pour y parvenir. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés et qui apprécient cette série, rendez-vous donc du coup aussi pour la saison 5, mais également le spin-off Star City. Voilà. Voilà, en tout cas pour For All Mankind. Voilà, écoutez, j'espère que l'émission vous a plu ce matin. Il est 9h16, pile poil dans les temps ce matin, avec pas mal de petites choses sur la série. La Cité des Étoiles, c'est le nom du centre russe de recherche sur l'espace. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Merci pour la référence, Oleg. Là-dessus, avant de se quitter, on va quand même regarder vers qui on va faire un petit raid ce matin. Hop. Je regarde. Et alors, il faut juste que Twitch se mette à jour. Voilà. Et on va aller faire un petit coucou du côté de... Oh, ça a l'air joli, ça. Ça a l'air très sympa. On va aller du côté de... Ah, j'ai perdu, excusez-moi. J'étais en train de regarder ce qui est en train de streamer pour vous le dire. Bon, je n'ai pas le nom de la chaîne, mais vous connaissez sûrement. Et ça va être sur Euden Chronicle, 100 Heroes. Ça a l'air assez cool, comme jeu assez joli. Donc, je vais vous faire un petit raid là-dessus. Voilà. Et du coup, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain mug. Et sinon, vous retrouvez Jérôme pour le mug dès jeudi. Pour rappel, il n'y aura pas de mug entre le 10 mai et le 17 juin inclus, pour rappel. N'hésitez pas à me contredire. Voilà. 24 juin ? Pourquoi ? Ah oui, décalage horaire, je pense que c'est pour ça. Jérôme essaye de nous ménager pour le décalage horaire. Ok, donc il n'y aura pas de mug entre le 10 mai et le 24 juin. voilà, vous êtes prévenus, on vous le rappellera évidemment. Et là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Très bonne journée, très bonne semaine. À très vite. Bye bye, ciao.